Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous voir, de vous revoir. Alors pour être tout à fait honnête, c'est que hier vers 19h, quand nous discutions avec Olivier, que j'ai pris conscience que j'étais formellement attendu pour dire quelque chose aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est qu'on essaye de un petit peu rappeler ses souvenirs et puis de se dire qu'est-ce qu'on a creusé récemment. Et il y a quelques semaines, en fait, suite au 7 octobre, quand le Hamas a déclenché toutes ses attaques contre les populations civiles d'Israël, qui représentent à peu près en magnitude à peu près 100 fois, si on rapporte le nombre de morts et la population d'Israël, 100 fois ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 en France, j'ai commencé à réfléchir à cette question. Et puis, depuis le 7 octobre, il y a eu ensuite une contre-attaque, le droit à se défendre, mais non seulement cela, une vengeance extrême et des événements aussi qui peuvent nous troubler considérablement avec des actes de vengeance ou d'élimination à bas bruit d'une population palestinienne, même dans d'autres territoires comme dans la Cisjordanie. Et donc on peut se poser la question, quel est le regard que nous pouvons porter en tant que chrétiens sur ces événements et surtout quelle est l'attitude sage à adopter face à ces événements, et c'est un petit peu ce que je souhaite vous proposer aujourd'hui. En introduction, je pensais à une lecture qui ne me paraît pas appropriée de ces événements, et je vais simplement en dire quelques mots, puis ensuite, à la lumière du Nouveau Testament, je vous proposerai une lecture qui me semble plus appropriée de ces événements et de là où nous devons nous tenir. La lecture qui ne me semble pas appropriée de ces événements, c'est la suivante, et je lis en fait un extrait d'un article. Le 7 octobre, le jour du sabbat, une catastrophe sans précédent s'est abattue sur Israël. Un petit narratif. Ceci est exactement le scénario que la Bible prédit pour le futur à venir. En effet, la Bible annonce que l'Occident aura une alliance avec Israël pour protéger ce dernier du terrible danger qui viendra du Nord. Le roi du Nord, dont parle Daniel au chapitre 11, a toujours été dans la grande prophétie accompli par la Grande Syrie, c'est-à-dire le territoire comprenant la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, bien plus encore. Ces blocs de puissance sont en place aussi avec la Russie, qui en Ézéchiel 38-39 est une grande puissance de l'extrême nord d'Israël. Cela ressemble à une répétition générale de ce qui est annoncé par la Bible pour la Grande Tribulation, Matthieu 24, qui sera la dernière et plus effroyable guerre mondiale. Puis ensuite, une analyse sur en fait, la Bible et la bande de Gaza. La Bible parle très clairement de la bande de Gaza en Ézéchiel 25. Ézéchiel 25, 15. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, à cause de ce que les Philistins ont fait par vengeance et parce qu'ils se sont vengés cruellement, dans le mépris des âmes pour détruire par une inimitié perpétuelle, à cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici j'étends ma main sur les Philistins. Je retrancherai les Kérétiens, je ferai périr le reste qui est sur le bord de la mer. » J'exercerai sur eux de grandes vengeances par des châtiments de fureur. Ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exécuterai sur eux ma vengeance. » Et donc, c'est exactement l'illustration de ce qu'a fait le Hamas avec le mépris de la ville, la destruction par une inimitié perpétuelle. Pour cette raison, un jugement spécial viendra sur les Philistins. Sous-entendu, c'est bien fait pour eux. Cette lecture me met extrêmement mal à l'aise. Et je pense, c'est en contradiction très forte avec ce que le Nouveau Testament nous annonce en termes de réconciliation des juifs et des non-juifs dans le Christ. Et donc, je vous propose maintenant une lecture qui me semble être plus centrale par rapport à notre mission de chrétien sur terre, qui est conforme à ce que Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Et je pense que l'angle du salut est non l'angle d'une espèce de réalisation prophétique où on jouerait un petit peu les Nostradamus en devinant, en disant « oui, c'est en train de s'accomplir, on le voit très bien, c'est très clair, avec force détail ». C'est un angle qui me paraît très imprudent, surtout quand il vient en contradiction avec le message du Nouveau Testament sur lequel l'ensemble de la communauté des croyants est d'accord. Et donc je vous propose peut-être une lecture par rapport à un aveuglement d'abord qui frappe ces populations, que ce soit côté d'Israël, que ce soit du côté des Palestiniens, et d'autre part, de dire quel est notre rôle là-dedans. Et je vous propose d'ouvrir donc la Bible dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 3. Et donc de lire des versets 14 à 16. Il s'agit donc du peuple juif qui reçoit et lit la loi de Moïse, mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Il y a aujourd'hui un voile qui est sur le cœur du peuple juif et du peuple juif qui lit la Torah. Et c'est même pas gagné que le peuple d'Israël d'aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, lise énormément la Torah ou se soumette à l'Éternel. Mais pour ceux qui se soumettent à l'Éternel, un voile subsiste et ce voile est levé que dans le Christ, dans l'annonce de Jésus-Christ. Si nous allons au chapitre d'après, nous lisons au chapitre 4, au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent ou qui sont en train de se perdre. C'est un temps qui est parfait. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Un autre voile, plus général, sur les populations civiles, que ce soit en Europe occidentale, et puis aussi on peut tout à fait appliquer, je pense, ce texte au peuple palestinien aujourd'hui. Un voile. Un double voile, finalement. Un voile sur le peuple israélien, un voile sur le peuple palestinien. Et donc, quel est notre rôle aujourd'hui ? C'est simplement ce qui est écrit derrière. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et le voile, il se lève quand le Christ, il est révélé dans notre cœur. Et ainsi, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Avec un conflit qui aussi s'exporte dans nos sociétés, le voit en regardant un petit peu les actualités en France, nous sommes des porteurs du Christ auprès des communautés qui soit sont connectées au peuple d'Israël, soit connectées au peuple palestinien dans diverses sympathies. Et comme le mentionne le chapitre 5 de cette même épître, finalement, le centre de notre mission, eh bien, c'est le verset 18. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu fait le premier pas de réconciliation et une réconciliation horizontale passe d'abord par une réconciliation avec Dieu. En effet, Dieu était en Christ, c'est un peu la prolongation de ce qu'on a dit ce matin, et réconcilier le monde, donc toutes ses communautés avec lui-même, en ne chargeant pas les êtres humains de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs. Simplement que nous ne perdions pas de vue, en fait, notre rôle. Et notre rôle, c'est de proclamer le salut auprès de toutes ces communautés. Mais comment un petit peu plus être pertinent par rapport à ces communautés ? J'ai un petit peu réfléchi à cela. Et je me suis dit quelque part, ce sont les uns et les autres des enfants d'Abraham. Ce sont des fils d'Abraham qui sont en train de se battre aujourd'hui. Et m'est venue la pensée de me dire, mais le seul chemin durable, le seul chemin efficace pour réconcilier ces fils d'Abraham, c'est que ces enfants d'Abraham adoptent la foi de leur père, adoptent l'exemple, suivent l'exemple de leur père, suivent la foi d'Abraham. Donc cela m'a amené à creuser un petit peu l'exemple de foi d'Abraham. Alors je vous propose peut-être de lire quelques petits textes pour fonder cela dans l'épître de Paul aux Romains. Il fallait bien que je lise un petit peu dans l'épître de Paul aux Romains. Donc l'épître de Paul aux Romains est adressée à une communauté qui est justement mixte, c'est très intéressant, qui est mixte entre juifs et non-juifs. Et c'est pour cette raison que Paul consacre des longs développements à expliquer de la manière dont le salut a d'abord été donné au peuple juif, et s'est ensuite élargi aux non-juifs, notamment dans les chapitres 9 à 11. Il va aussi parler de la cohabitation entre les chrétiens avec un arrière-plan juif et un arrière-plan non-juif, au chapitre 14 par exemple. Mais là, ce qu'il dit, c'est simplement, il prend l'exemple d'Abraham, figure tutélaire pour justement les juifs. Et puis, par extension, c'est une figure tutélaire pour à la fois les Israéliens et les Palestiniens aujourd'hui. Verset 2. Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? C'est une citation de Genèse 15, verset 6. Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste, l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Il y a deux termes clés. Il y a le premier terme qui est un terme de comptabilité, la foi lui est comptée comme justice, c'est-à-dire qu'elle est portée à son crédit. Et puis il y a un terme de légal, c'est-à-dire Dieu déclare juste la personne. Et c'est ce qui est arrivé pour Abraham. Et puis ce qui est intéressant, c'est ensuite de lire le verset 16, en fait, qui dit ceci. « C'est par la foi que l'on devient héritier de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a de la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, juif, non-juif, dans l'exemple de foi qui l'a accompagné toute sa vie. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que la foi d'Abraham, ce n'est pas seulement une foi qui l'a connectée avec Dieu, mais c'est une foi qui est liée à une promesse que Dieu lui a faite. Et cette foi l'a accompagné toute sa vie. Et je trouve que c'est intéressant de se plonger, à titre personnel, dans la foi d'Abraham, pour nous laisser aussi interpeller par la foi d'Abraham et être plus pertinent ensuite pour les enfants d'Abraham que nous avons à côtoyer. Alors je vous propose un petit parcours dans le livre de la Genèse. Il semble que vous êtes en train de parcourir aussi le livre de la Genèse. Alors je ne sais pas si je vais tomber dans les mêmes chapitres, mais lire quelques textes qui me paraissent vraiment intéressants. Et peut-être déjà commencer au chapitre 12. Donc, sans doute avez-vous vu que la Genèse se compose en deux très grandes parties. Une partie sur l'histoire des origines et de l'humanité, sur les 11 premiers chapitres. Et ensuite, que le focus de la Genèse va se faire de façon plus restreinte, plus focalisée sur Abraham et sa descendance dans les chapitres 12 à 50. Et donc, on commence justement cette deuxième partie de la Genèse au chapitre 12, un petit peu avant, ceci dit, techniquement. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » En opposition avec, au chapitre 11, ceux qui ont construit la tour de Babel pour se faire un nom qui était grand. C'est eux qui ont voulu rendre leur nom grand, là c'est l'Éternel qui rend grand le nom d'Abraham. « Et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » L'Éternel partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de, il faut que je dise, 75 ans de ce côté-là de la frontière, lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère, il prit aussi tous les biens, les serviteurs, etc. Abraham traversait le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je te donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. L'exemple de foi, c'est partir sans savoir où il allait. « Va pour toi, va vers toi » de traduction. Quitter, partir. C'est pas simplement croire au Dieu qui se révèle, mais c'est aussi cela traduit dans une action qui est conforme à une promesse qui est reçue, conforme à un appel. Alors la foi qui est un appel, cela aussi nous dit quelque chose, c'est qu'il faut être disponible pour recevoir l'appel. Si sur mon téléphone portable, j'éteins mon téléphone portable, je ne serai pas bien disponible pour recevoir des appels. Et de quelle manière sommes-nous nous-mêmes disponibles pour recevoir un appel de Dieu, une promesse pour nos vies? On peut tourner la page et aller au chapitre 13. Donc il est question d'une querelle entre Lot et Abraham, au verset 7. Enfin, pas directement entre Lot et Abraham, mais entre leurs bergers. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, et j'insiste sur ces mots qui m'ont beaucoup frappé par rapport au conflit actuel, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Et chacun va d'un côté et de l'autre. Abraham n'est pas du tout dans la revendication d'une terre qui lui a pour autant été promise. Et au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, etc. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisait un autel en l'honneur de l'Éternel. Ce qui est très touchant de la part d'Abraham, c'est que il n'a jamais habité de façon permanente. Il a toujours été dans une tente et il a sillonné ce pays promis dans une tente. Les seules pierres qu'il a utilisées pour bâtir quelque chose, il les a utilisées pour bâtir des autels, pour adorer l'Éternel. Pas une demeure permanente. Et je trouve très beau aussi cet exemple de foi. Il y a une promesse qui accompagne, et peut-être se dire, par rapport à notre monde d'aujourd'hui, par rapport à notre société, par rapport à notre passage sur terre, nous sommes des gens de passage, comme Abraham. Nous avons des promesses qui ne sont pas pour ce monde-là, et nous sommes des gens de passage. Et là où nous nous fixons, là où Abraham s'est fixé, c'est pour adorer l'Éternel. Et je trouve cela intéressant. Et puis, je trouve très fort la parole qu'il a vis-à-vis de Lot, puisque les descendants de Lot seront plus tard des voisins et ennemis d'Israël, qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi, car nous sommes frères. Et je crois que, quelque part, les enfants d'Abraham se réconcilieront que quand ils suivront l'image de leur ancêtre. Genèse 15. Donc là, on était quand Abraham avait 75 ans. Et donc là, une dizaine d'années est passée. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? » Là, on voit qu'il est le père des Juifs puisqu'il négocie. Non, c'est une mauvaise blague. « Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Et ce qui était tout à fait possible d'ailleurs à l'époque. Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Alors qu'à vue humaine, c'est de moins en moins possible que quelqu'un naisse de ce couple. Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Et on relit ce verset qu'on a lu dans Romains 4. « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. » Et cette foi d'Abraham, c'est le modèle de foi, le fait de sortir de sa zone de confort, sortir de son habitation. L'Éternel le conduit en dehors de son lieu de vie, de son lieu de confort, du lieu où il est toujours habitué, pour le placer devant un horizon beaucoup plus grand, devant les étoiles. Dire « Regarde, contemple les étoiles. » Réaffirmation de la promesse, même si Abraham, à vue humaine, ne pense pas ou voit difficilement comment elle peut s'établir. Et voilà, je place devant toi et confiance. Sors de ta zone de confort et confiance. Puis Dieu va faire une alliance avec Abraham, et aujourd'hui on peut parler de traité entre différentes nations aussi, et notamment quand j'étais jeune, en 93, les accords entre Arafat et Yitzhak Rabin, à l'époque, nous avaient donné beaucoup d'espoir par rapport à la situation de cette région, semble extrêmement loin de ces espoirs de paix, n'est-ce pas, de 93. Mais par rapport au traité, quand c'est Dieu qui fait un traité, il y a quelque chose de très intéressant dans ce texte. Et je vous propose de lire au verset 9. L'Éternel dit à Abraham, suite à la question « À quoi reconnaîtrai-je que je posséderai ce pays ?»« Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Donc à l'époque, ce que l'on faisait quand on faisait un traité, c'est qu'on coupait des animaux et on passait au milieu des animaux pour dire « si on ne respecte pas le traité, eh bien, le sort de ces animaux nous sera appliqué, en fait, à chaque partie du traité. » Donc c'était quelque chose qui était extrêmement sérieux, n'est-ce pas ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au coucher du soleil, verset 12, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Et verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Qu'est-ce qui est passé entre les animaux partagés ? Est-ce qu'Abraham est passé ? Non. Il n'y a que l'Éternel à travers cette présence de four et de flammes qui passe, parce que lui seul est le garant de l'alliance. Lui seul est celui qui peut établir, sans tromper, une alliance avec l'être humain. Et c'est juste l'Éternel qui, dans cette discussion avec Abraham, va passer entre les animaux partagés. L'Éternel fait sortir Abraham de son lieu de vie, de sa zone de confort. Il le met devant un horizon qui est extrêmement large. Et ensuite, quand il s'agit de faire alliance avec Abraham, c'est seul l'Éternel qui garantit. Et je crois que si on applique à la situation actuelle, c'est seul l'Éternel qui établira, qui garantira un jour une paix entre les fils d'Abraham. Chapitre 17, le signe de la circoncision est donné à Abraham comme signe de l'alliance, et l'Éternel apparaît à Abraham sous un nouveau nom. Non, je suis le Dieu Tout-Puissant, qui est donc capable d'accomplir cette alliance. Quand Abraham a 99 ans, où là, il y a encore moins et encore moins de chances que les promesses se réalisent. Vous voyez, entre l'appel d'Abraham, 75 ans, et ce dialogue de Genèse 17, quand Dieu donne la circoncision à Abraham, il s'est passé 24 ans. Et donc, le voyage de foi lié à une promesse, c'est des fois un voyage long. C'est un voyage où on ne voit pas les choses se réaliser tout de suite. Mais j'aime beaucoup aussi cet aspect de la vie d'Abraham, où la foi liée à une promesse est une foi qui dure. Et c'est une foi qui est encore plus mise à l'épreuve si nous allons au chapitre 22. Alors c'est un chapitre qu'on lit peut-être avec un automatisme d'appliquer ce texte immédiatement, de façon typologique, à Dieu qui donne son fils en sacrifice, bien sûr. Mais j'aimerais simplement qu'on lise pour comprendre ce qui s'est passé dans le cœur et dans l'esprit d'un père. D'un père qui a enfin reçu le fils promis au bout de tellement de temps. Et ce père et le fils vont faire un voyage. Et le père va devoir mettre sur l'autel quelque part la promesse reçue. Verset 3, Abraham se leva de bon matin après avoir reçu ce commandement extrêmement étrange. D'ailleurs, prends ton fils unique, celui que tu aimes, va-t'en et offre-le en holocauste. C'était les Cananéens qui offraient leurs enfants à une divinité. L'Éternel n'avait jamais demandé cela. C'était un commandement qui était impossible, interdit. Comment l'Éternel peut-il prescrire ça ? Mais Abraham se met en route. Il se lève de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva ses yeux et vit l'endroit de loin. Quand vous voyez de loin l'endroit, vous savez ce que vous devez faire sur cet endroit. Et vous avez votre fils à côté de vous. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant, je trouve, extrêmement prenant. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchaient les deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Après avoir vu, Abraham entend et doit répondre à des questions. Et Abraham dit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Cela, bien sûr, m'émeut parce que quand on est père, quand on imagine en fait tout le chemin de foi d'Abraham de 25 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. C'est le sommet de la foi d'Abraham. Il pensait sans doute que son fils lui serait redonné par une sorte de résurrection, lui dit l'Épître aux Hébreux. Mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement instructif pour nous, de nous dire quel exemple nous venons tirer d'Abraham dans sa foi. C'est une foi qui est dure, c'est une foi où nous sommes disponibles pour un appel, c'est une foi où nous savons où est notre patrie, où sont nos promesses, et nous sommes quelque part des voyageurs, des étrangers sur cette terre ici. C'est une foi qui nous fait sortir de notre zone de confort pour nous placer devant les étoiles. C'est une foi où ce n'est pas nous qui garantissons l'alliance, mais c'est Dieu qui la garantit, parce que lui seul ne se trompe pas et ne nous trompera jamais. Et c'est une foi où peut-être nous serons appelés à renoncer à un appel, renoncer à quelque chose pour autant que Dieu nous aura donné, ou en tout cas le mettre sur l'autel pour comprendre que c'est Dieu lui-même qui est plus important que ce qu'il nous donne. C'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et si nous revenons au chapitre de 4 de Romains, alors cette foi d'Abraham, elle est exemple pour ses enfants, mais aussi c'est pour nous, verset 23. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi était portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Donc pour nous aussi, cette foi sera mise à notre crédit, elle sera portée à notre compte si nous imitons cette foi dans le Christ d'Abraham, puisque Abraham, ce n'était pas anticipation, mais nous, la foi que Paul nous demande d'avoir, c'est la foi dans le Christ. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes, qui est ressuscité à cause de notre justification. Et nous-mêmes, ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi. Donc, exactement, vous voyez les deux mêmes termes de comptabilité et l'ego. Nous sommes à la fois déclarés justes, comme Abraham, et cette foi, elle est, comme pour Abraham, portée à notre compte. Simplement, la foi d'Abraham peut nous sembler un petit peu inaccessible, n'est-ce pas ? On peut dire, vraiment, super sommet, c'est impressionnant. Sauf que la foi d'Abraham a aussi eu des trous dans la raquette, si je puis dire, de temps en temps. En Genèse 13, par exemple, il va faire passer Sarah pour sa sœur, et c'était vrai d'ailleurs, puisqu'elle était sa demi-sœur, en descendant en Égypte. En Genèse 16, comme la promesse ne se réalisait pas, sous suggestion de Sarai, il va dire, bien, on va prendre Agar, et puis je vais faire un enfant à Agar. Et c'est intéressant de voir qu'une promesse reçue, quand on ne la voit pas s'accomplir, on essaye de la faciliter un petit peu, quoi. On essaye de la faire un petit peu avancer, d'y mettre un peu du nôtre. Et on peut voir, quelque part, même si Ismaël sera le père de grandes nations et aura aussi reçu dans une certaine mesure une protection de Dieu, en tout cas, pour sa vie, et qu'il sera le père d'un grand peuple, on voit quand même que ce n'a pas été la meilleure idée à laquelle Abraham est souscrit en Genèse 7. Puis on peut voir aussi, ce qui est extrêmement étonnant, c'est que dans l'inconscient collectif de nos églises, on retient que Saraï, quand on lui annonce qu'elle aura un enfant à 90 ans, elle rit. Ça nous dit quelque chose. Mais on fait quelque part une omission sur le fait qu'Abraham, en Genèse 17, lui aussi va rire, tout autant et avant Sarah. Et ce qui est intéressant, c'est comment Dieu prend Abraham. Il dit, mais tu as ri dans ton cœur, et justement le fils que je vais te donner, tu vas l'appeler. Le le fils que je t'ai donné, tu vas l'appeler Isaac, justement, ce qui veut dire rire. Et donc, tu arrives, mais ton fils, tu vas l'appeler rire ainsi. Et tu vas le dire tous les jours, parce que tu vas dire rire, viens à table, rire, viens ranger ta chambre, etc. Non, mais c'était ça, la vie quotidienne. Et je trouve extrêmement intéressant l'humour de Dieu aussi dans ce domaine-là. Il va justement aller toucher Abraham dans son point de doute, en lui disant, tu as ri, tu as appelé le fils de la promesse, tu l'as appelé ainsi rire. Puis on pourrait dire, après ces sommets, Abraham a son fils Isaac, etc., il ne va pas retomber dans les mêmes bêtises. Eh bien si, en Genèse 20, avec Abimélec, il va retomber dans son travers de présenter Sarai pour sa sœur, etc. Et cela, quelque part, est aussi encourageant de se dire, si l'épître aux Romains dresse un tableau un petit peu idéal d'Abraham, au verset 18, « Espérant qu'en toute espérance, Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Sans faiblir, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé ou frappé par la mort, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et surtout, les versets 21 et 20, « Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et a rendu gloire à Dieu. » Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est un tableau magnifique. Et Genèse éclaire des lumières et des ombres de ce tableau. Et c'est encourageant aussi pour nous, parce que ce que Dieu retiendra, j'espère, à la fin, c'est que nous ayons eu la pleine conviction que ce qu'il nous a promis, il puisse aussi l'accomplir. Alors c'est aussi une intercession quand nous voyons l'exemple d'un Abraham qui ne va pas revendiquer pour lui la terre. Ne nous battons pas, nous sommes frères. Qui ne va pas chercher à s'établir ou à réaliser la promesse de Dieu. Quand il l'a réalisée par lui-même, il s'est planté. Et qu'à la fin, en fait, Abraham a accepté de mettre cet appel et cette promesse sur l'autel. Alors c'est un très bel exemple aussi quand on lit la situation actuelle, de se dire « Mais si tous ces fils d'Abraham ?» Tous ces enfants d'Abraham pourraient avoir cette même foi. Et nous sommes ici comme des ambassadeurs de cette foi. Des ambassadeurs du plan de Dieu qui a un plan d'unité par rapport à ces deux communautés et par rapport à toute communauté. Je vous propose de lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Et bien nous imprégner de ces textes. Verset 12. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les non-juifs étaient appelés des incirconcis, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Donc c'est vrai pour nous comme pour les Palestiniens en ce temps-là. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, souvent il y a ces « mais maintenant » dans les épîtres de Paul qui signalent un renversement de la situation. « En Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, nous, chaque peuple. En effet, il est notre paix. Le monde, et cette partie du monde en particulier, aspire à la paix. Mais le voile est ôté que dans le Christ. » Que dans celui qui est notre paix. Lui qui, des deux groupes, donc les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Verset 16, verset 15, déjà, par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, juifs et non-juifs, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps, corps de Christ, l'Église, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. Et nous sommes aujourd'hui de tels ambassadeurs pour à notre tour annoncer la paix à ceux qui étaient loin. À ceux qui sont loin, annoncer la paix. À ceux qui sont quand même loin, parce qu'un voile est aussi sur leur cœur, annoncer celui qui seul peut établir la paix, le prince de paix. Et puis, quand nous pensons à un règne, eh bien nous pouvons prier le Notre Père et dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur la ciel, sur le ciel. Nous soyons assis, je pense, à la lumière de ces conflits qui nous interpellent, être à notre juste place pour porter la bonne nouvelle et pour ainsi prolonger cette mission du Christ. Le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Petite anecdote, à Romanel, là où je travaille, on fait des travaux et donc il y a un ouvrier d'origine algérienne qui est venu faire des travaux. Donc il a commencé les travaux au mois de septembre et puis il a été interpellé dans notre expo de Bible ancienne à l'entrée par une Bible écrite en arabe et en latin. Puis il me dit « Ah, je reconnais des choses en arabe, c'est super, etc. » Et c'est quoi qui est marqué? Et puis, bon, l'arabe, je ne sais pas lire. Le latin, j'ai deviné de quelle portion il s'agissait. Donc, du coup, il s'agissait de la fin de l'évangile selon Marc. Donc, on l'a lu ensemble. Et puis, il me dit, oui, mais je crois que les chrétiens, ils ont un peu falsifié la Bible, etc. Je lui dis, oui, c'est ce que c'est couramment admis chez les musulmans, effectivement. Mais voilà, on est resté là-dessus sur un bon rapport. Et puis, il est revenu intervenir après le 7 octobre. Et là, bille en tête, il m'a lancé sur le conflit israélo-palestinien, et avec des choses qui étaient d'ailleurs assez justes. Qu'il disait, j'ai souscrit aux choses assez justes, et puis je dis, c'est pas tout simple, mais je dis, j'ai quelque chose que j'ai préparé pour vous, et on a une édition éditée par un confrère de l'Évangile selon Matthieu, avec beaucoup de commentaires pour accompagner un musulman dans une lecture de l'Évangile selon Matthieu. C'est l'Injil de Matthieu, ça s'appelle, avec beaucoup de commentaires en comparant au Coran. Et donc je lui ai donné, ça l'a beaucoup touché. Mais je me suis dit, a posteriori, si je m'étais engagé sur une discussion partisane sur le conflit israélo-palestinien, j'aurais perdu une occasion. J'aurais perdu une occasion d'établir un lien, une occasion de donner l'Évangile, une occasion de porter cette parole d'espérance et de réconciliation. Donc c'est surtout savoir où on est, où nous sommes appelés. Et nous sommes appelés à être des porteurs de cette réconciliation. Et à peut-être mieux vivre déjà pour nous-mêmes cette foi d'Abraham, pour mieux l'annoncer aux enfants d'Abraham.